Lecture par Christine Fusarelli d'un extrait du livre de Sylvain Tesson qui s'appelle La Panthère des Neiges. Extrait numéro 3. Vers midi, le soleil était à son rendement absolu, tête d'épingle dans le néant. Au pied du vallon ouvert en demi-lune, un cube oublié, notre baraquement. De notre position, à 50 mètres sous les crêtes aplanies, on embrassait la vue sur les pentes de caillasse. Munier avait eu raison. Les yaks débouchèrent subitement. Ils vinrent par le col qui fermait le vallon à l'ouest. Leurs taches de jet saupoudraient les éboulis à 500 mètres de nous. Ils s'appuyaient sur la montagne comme pour l'empêcher de tomber. Il fallut progresser vers eux sans bruit, de bloc en bloc, à revers, contre le vent. Muni et moi dominions le troupeau à présent, à 4800 mètres. Soudain, les yaks détalèrent, remontant d'un même élan vers la crête d'où ils avaient surgi. Avaient-ils repéré nos silhouettes bipèdes, emblèmes de la terreur du monde ? Ils filèrent au trot dans les pentes lits de vin, donnant cette impression de masse en flottaison, avançant, glissant plutôt comme des ballots de laine, sans que nos yeux ne décèlent le mouvement des pattes cachées par les fanons. Le troupeau s'arrêta sous le col. Plus tard, nous étions couchés à une centaine de mètres d'eux, en pleine pente, dans les rocailles. Je regardais le dessin des lichens sur les pierres, des fleurs dentelées comme sur les planches dermatologiques des livres de médecine de ma mère. Lassé de ces détails, je relevais la tête vers les yaks. Ils pâturaient et levaient la tête eux aussi. D'un mouvement lent, deux cornes se dressaient dans le ciel. Il manquait un plaquage d'or pour en faire les statues du palais de Knossos. Des loups hurlèrent, loin, vers le couchant, par-delà le col. « Ils chantent », préféra dire Munier. « Ils sont au moins 8. » Comment pouvait-il le savoir ? Je n'entendais qu'un même lamento. Munier poussa un hurlement. Au bout de 10 minutes, un loup répondit. S'établit alors ce que je garde comme une des plus belles conversations tenues par deux êtres vivants, certains de ne jamais fraterniser. « Pourquoi nous sommes-nous séparés ?» disait Munier. « Que me veux-tu ? » disait le loup. Munier chantait. Un loup répondait. Munier se taisait, le loup reprenait. Et soudain, l'un d'eux apparut sur le col le plus haut. Munier chanta une dernière fois et le loup galopa dans le versant vers notre position. Farci de lecture médiévale, fable du Gévaudan et roman arthurien, je ne trouvais pas du tout agréable la vision d'un loup fonçant vers moi. Je me rassurais en regardant Munier. Il avait l'air aussi peu inquiet qu'une hôtesse d'Air France dans les turbulences. « Il va s'arrêter d'un coup devant nous, » murmura-t-il, juste avant que le loup ne se fige à 50 mètres. Il prit la tangente et nous coiffa par un long cheminement, trottant à niveau, la tête tournée vers nous, rendant les yaks fébriles. Le troupeau noir prit à nouveau le large, dérangé par le loup, et remonta les pentes. Le loup disparut. Nous fouillâmes le vallon. Les yaks atteignirent les crêtes. La nuit tomba. Nous ne le revîmes pas. Il s'était évaporé. Meunier me parlait de sa première photographie prise à l'âge de 12 ans. Un chevreuil dans les Vosges. « Ô noblesse, ô beauté simple et vraie !» avait prié le jeune Ernest Renan dans les ruines d'Athènes. Pour Meunier, cette première rencontre fut sa nuit sur l'Acropole. Ce jour-là, j'ai forgé mon destin. Voir les bêtes, les attendre. Dès lors, il avait passé plus de temps allongé derrière les souches que sur les bancs de l'école. Son père ne l'avait pas trop forcé, il n'avait pas eu son bac et gagna sa vie sur les chantiers jusqu'à ce que ses photographies soient couronnées. Les scientifiques le regardaient de haut. Meunier considérait la nature en artiste. Il ne valait rien pour les obsédés de la calculette, serviteurs du règne de la quantité. J'en avais rencontré quelques-uns de ces calculateurs. Ils baguaient les colibris et éventraient des goélands pour prélever des échantillons de bile. Ils mettaient le réel en équation. Les chiffres s'additionnaient. La poésie, absente. La connaissance progressait-elle? Pas sûr. La science masquait ses limites derrière l'accumulation des données numériques. L'entreprise de mise en nombre du monde prétendait faire avancer le savoir. C'était prétentieux. Meunier, lui, rendait ses devoirs à la splendeur et à elle seule. Il célébrait la grâce du loup, l'élégance de la grue, la perfection de l'ours. Ses photos appartenaient à l'art, pas à la mathématique. Tous les jours, dans les aplats arasés, nous prélevions nos visions. Des rapaces, des pikas, le nom des chiens de prairie tibétains, des renards et des loups. Une faune aux gestes délicats, adaptée à la violence des altitudes. Dans ce haut parvis de la vie et de la mort, il se jouait une tragédie difficilement perceptible, parfaitement réglée. Le soleil se levait, les bêtes se pourchassaient pour s'aimer ou se dévorer. Les herbivores passaient 15 heures par jour la tête vers le sol. C'était leur malédiction. Vivre lentement, occupés à paître une herbe pauvre mais offerte. Pour les carnassiers, la vie était plus palpitante. Ils traquaient une nourriture rare dont la rafle constituait la promesse d'une fête de sang et la perspective de siestes voluptueuses. Tout ce monde mourait et les corps déchirés par les charognards mouchetaient le plateau. Bientôt, les squelettes brûlés d'ultraviolet se réincorporaient à la valse biologique. Cela avait constitué la belle intuition de la Grèce antique. L'énergie du monde circulait en un cycle fermé, du ciel aux pierres, de l'herbe à la chair, de la chair à la terre, sous la houlette d'un soleil qui offrait ses photons aux échanges azotiques. Tout passe, tout coule, tout s'écoule, les ânes galopent, les loups les pourchassent, les vautours planent, ordre, équilibre. Plein soleil, un silence écrasant, une lumière sans filtre, peu d'hommes, un rêve. Et nous nous tenions là, dans ce jardin vital, aveuglant et morbide. Meunier avait prévenu. C'était le paradis par moins 30 degrés. La vie se rassemblait. Naître, courir, mourir, pourrir. Revenir dans le jeu sous une autre forme. Je comprenais le souhait des Mongols de laisser leur mort se décomposer dans la steppe. Si ma mère l'avait dicté, j'aurais aimé que nous allassions déposer son corps dans un repli des Kunlun. Les charognards l'auraient déchiqueté avant de se livrer eux-mêmes à d'autres mâchoires et de se diffuser en d'autres corps, rats, jibaètes, serpents, offrant à un fils orphelin d'imaginer sa mère dans le battement d'une aile, l'ondulation d'une écaille, le frémissement d'une toison.